rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockologie. Bien le bonsoir, nouvelle émission de Rockologie qui, comme tous les mercredis de 21h à 22h, vous entretient sur l'histoire du rock selon mon humeur. Et puis ce soir, j'avais envie de vous parler du rock, on va dire heavy rock. Là, on est un petit peu sur le proto heavy metal, les groupes américains qui étaient actifs au tournant des années 60 et 70, avec de vieux restes de psychédélisme dans les veines, et puis une proportion à brancher les amplis à fond, et puis carrément crier leur fureur dans le micro. Blue Cheer, un des groupes, on va dire, emblématiques de cette période, originaire de San Francisco, passé un petit peu à la postérité pour avoir perverti et puis poussé dans ses retranchements. Le classique d'Eddie Cochran, Summertime Blues, pour en faire un brûlot, un des premiers titres considérés par les rockologistes comme étant un bel exemple de heavy rock. Blue Cheer, donc, en 68, sortent leur premier album qui s'appelle Vincir Bus Eruptum. Et l'aventure se poursuit jusqu'au cœur des années 70. Et puis là, on va peut-être pas écouter les classiques, parce que je pense que tout le monde a eu l'occasion d'écouter Summertime Blues en version lourde, qui préfigure ce qu'on appelle le rock stoner, à savoir une émanation du rock psychédélique avec des chanteurs qui chantent réellement, qui ne braillent pas, et surtout des guitares saturées. Blue Cheer, hein, qui édite en 70 déjà leur quatrième album qui s'appelle The Original Human Being, et on va écouter Good Time Are So Hard to Find, le titre d'ouverture, et puis derrière on enchaînera avec le groupe dans lequel vous pouviez retrouver Gary Yoder, guitariste et puis chanteur principal de cet album, CAC, qui lui était un contemporain des formations de San Francisco, je pense notamment au Moby Grape, pour la flamboyance des guitares et puis les harmonies vocales. Blue Cheer et CAC dans Rockologie.
Oh, chance with his cosmic colored t-shirt and striped belt pants. Yet he's constantly aware of total harmony with them. So he might be high, yeah. Electric sailor, where have you been, yeah? You know that guy must have looked within, yeah. Who is this guy of sparks and light that runs around so free? This guy with a smile so wide, his face is odd to see. Oh, it's the electric sailor. Come to earth to be what he can be.
Vous êtes bien à bord de Rockologie, l'émission Arrondie Histoire du Rock, qui ce soir vous parle de rock proto-heavy metal, comme ça qu'on l'appelle entre nous les savants de la musique, les savants du rock. CAC, groupe originaire de San Francisco, comme je l'avais dit juste avant, un des contemporains des Moby Grape, chantant à plusieurs voix, avec des guitares flamboyantes et surtout des envolées lyriques, dignes de cette ville de la Californie du Nord. Donc un album et puis plus rien, avant que Gary Yoder, comme on l'avait dit, intègre Blue Cheer, un autre grand groupe du rock proto-metal originaire de San Francisco. De San Francisco, nous allons aller du côté de Boston avec un groupe qui s'appelait les Banshees, auteur de deux excellents albums, avec à son bord une espèce de rock psyché, avec pareil des harmonies vocales très entraînantes, et puis surtout des guitares tranchantes, et puis ce titre qui surnage dans le tracklist du premier album qui est édité en 69 chez Atlantic, I Just Don't Know. On a vraiment l'impression d'écouter le groupe de Skip Spence et puis de Bob des Moby Grape. C'est parti pour Banshee, un titre issu de leur premier album qui est assez facilement trouvable dans sa formule, on va dire, originale, puisqu'il a été édité chez Atlantic. Sometimes Banshee, un extrait de leur premier album I Just Don't Know, un achat que je recommande chaudement aux amateurs de rock psyché à tendance heavy, un album qui était sorti en 69. SRC, on va continuer notre voyage à travers les États-Unis pour échouer du côté de Detroit, la patrie de la Tomla Motown, mais pas que, avec une scène, on va dire, chargée en matière. Pour les amateurs de rock, on peut le MC5 évidemment, les Stooges, Alice Cooper, The Ambiose Duke, un groupe qui est assez proche de ce qu'on a diffusé en début d'émission, et SRC qui est un petit peu l'abréviation pour Scott Richardson Case, qui était le groupe des frères Quackenbush, un qui était derrière l'orgue, et puis l'autre qui était un expert de la pédale fuzz. En tout cas, c'est ce qui avait donné la réputation des disques sortis chez Capitol comme étant les plus acides. Ça, c'était un adjectif et puis une caractéristique qui avait été exposée dans les milieux d'amateurs du psychédélisme. Trois albums qui étaient sortis rétrospectivement en 68, 69, 70 chez Capitol. Autant vous dire que les albums s'étaient très peu vendus. En dépit de la qualité certaine de la musique, un espèce de psyché un petit peu lourd avec ses attaques à la fuzz et les harmonies vocales qui faisaient un petit peu la richesse de ce groupe animé par six jeunes gens. Alors c'était six musiciens qui vivaient dans la banlieue de Ann Arbor dans une espèce de communauté et qui avaient construit dans leur maison vraisemblablement en sous-sol leur studio, et ils bidouillaient leur truc à tel point qu'ils avaient sorti une démo pour solliciter et puis démarcher les labels, et puis ils avaient attiré l'attention chez Capitol Records, ce qui avait valu la signature le temps de trois albums. Le label avait beaucoup misé sur le groupe, mais les faibles ventes enregistrées par le premier et le deuxième album avait précipité le groupe vers la porte de sortie du label, et puis le groupe a sorti par la suite des albums sur et puis des compilations évidemment, et à tel point qu'ils ont fait l'objet d'un culte parmi les aficionados de cette musique là. SRC, Scott Richardson Case, on va écouter le titre de fermeture du premier album qui s'appelle Interval, à cheval entre le rock prog, psyché et le heavy rock.
Thank you.
l'instant, nous étions restés à Detroit avec le groupe Frost, F-R-O-S-T, adepte d'un rock'n'roll avant qu'ils plongent leur rock'n'roll dans un bas d'acide et puis qui poussent les guitares dans leur retranchement pour en faire une espèce de mélasse proto-heavy metal. L'album, quant à lui, s'appelle Through the Eyes of Love. Je crois me... dire juste en disant que c'est le dernier album qu'ils ont édité sur ce titre, sur ce nom-là. Ça avait édité 4-5 albums pour Vanguard Records. Qu'est-ce que je dis 4-5 3 albums, dont un qui était, on va dire, orienté très rock'n'roll avec des reprises de rock'n'roll très, très, très agressives, comme ça se pratiquait du côté de Detroit. Une ville où, franchement, il faisait pas bon vivre, hein. Loin de la douceur et la fraîcheur californienne. Là, on était à Detroit, c'était plutôt plafond très bas, un ciel très gris, et puis une ambiance de vie assez lourde. Litter, un groupe qui nous vient de Minneapolis, un peu plus à l'est de Détroit, qui eux avaient s'étaient formés autour de en 66 autour de la personne de Zip Kaplan et puis Wayne Kendricks. Alors j'ai peut-être un petit peu écorché le nom. Je vous retrouve ça. Trois albums, dont le premier qui va être Warren Kendrick, voilà, qui va être porté par le single Action Woman, qui sera considéré comme un des gros classiques du rock garage du Middle West. Avant que le groupe sorte un deuxième album qui s'appelle 100 Fine, plus psyché, moins garage, et puis que la troisième mouture de la formation de Minneapolis se mue en espèce de rouleau compresseur de rock, heavy rock, un petit peu à la Cream. Le dernier album sortira chez Probe, un sous-label d'ABC. Il s'appellera tout simplement Emerge, et puis on va écouter de cet album Feeling, au parfum très heavy. c'est toujours Rockologie sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec un instant dans cette émission consacrée au heavy rock américain des débuts des années 70, fin 60, début 70, un extrait de l'unique album de Lightnings, c'est un groupe qui s'inscrivait dans la suite des Litter avant que le guitariste Zip Kaplan forme White Lightning, un groupe intermédiaire entre The Litter et puis Lightnings. Lightnings, quant à eux, ont sorti un unique album en 70 chez Pickwick Records. On a écouté le titre d'ouverture qui s'appelle Prelude to Opus Number 4, très inspiré par Cream, mais pas que. Les formations, on va dire, provenance d'Angleterre, qui servaient à un rock très blues, mais très... avec des chanteurs hurleurs, on pense notamment à Led Zeppelin avec Robert Plant, qui était passé par là en inspirant toute cette jeunesse américaine. De jeunesse anglaise, il va y avoir une question dans l'instant qui suit. Them, qui était le groupe originaire de Belfast, Irlande du Nord, qui avait au moins accompagné sur les deux premières années de la carrière de Van Morrison. Them qui vont migrer sans Van Morrison du côté de Los Angeles et sortir trois albums pour le compte Tower Records, qui était un sous-label de Capitol. Et on va écouter un extrait de leur deuxième album, I Keep Singing, très, très heavy comme ce qu'on avait écouté en début d'émission. Encore un groupe d'énervés, Yesterday Children dans Oncology, l'émission a remonté l'histoire du rock de Radio Campus Grenoble 90.8. Un unique album qui était sorti au tournant des années 60 et 70, 69 pour être plus précis, avec cette reprise, cette cover complètement débridée de Evil Woman, un titre qui figurait au répertoire d'un grand groupe que j'affectionne particulièrement, anglais, les Spooky Tooth, avec l'excellent chanteur Mike Harrison. Là, nous étions avec les frères Cross, avec Yesterday's Children, et dans leur forme la plus, on va dire, primitive, avec ce côté très pesant qu'on pouvait retrouver dans les formations proto-metal, les guitares mises en avant, et puis ces chanteurs qui criaient avec, tout en chantant, pour donner un petit peu plus de puissance à la musique. On va continuer nos pérégrinations avec un power trio, comme il y en avait beaucoup dans ce genre musical. Cream avait servi, on va dire, de matrice à toute cette jeunesse. Teen House, un groupe d'Indiens, de musiciens d'ascendance indienne, qui avait été repéré par Johnny Winter et signé chez Epic Records, avait édité un unique album. Et on va écouter de cet album Be Good and Be Kind, où la virtuosité flirtait avec la violence. Voilà de quoi clore, embouter cette émission consacrée au heavy rock américain des années 60 et 70, proto heavy metal, comme je l'ai dit dans le courant de l'émission. Granicus, qui était un groupe originaire de Cleveland, qui avait gravé en 73 un unique album pour RCA du côté de New York. Un album fortement influencé par le groupe anglais Led Zeppelin. N'en déplaise au chanteur Woody Liefeld qui joue bien le jeu et qui chante merveilleusement bien dans les aigus. Et puis les quatre autres larrons qui tricotent un espèce de heavy rock très, très ancré dans sa période, avec des envolées guitaristiques issues du rock psyché. Et puis ce nom de scène, Granicus, qui fait référence à une des plus grosses batailles menées par Alexandre le Grand du côté du Tibre contre les Perses. Granicus, qui avait édité un unique album en 73, un éponyme, et on s'est écouté Paradise. Voilà qui clôt en beauté ce programme consacré au heavy rock dans Rockology. Ciao, bye, à la semaine prochaine.
Rock and roll music and why I preach against it. I believe that it is a contributing factor to our juvenile delinquency of today.
Rockology.